Bonjour à tous. Ce matin, j'aimerais continuer la série de prédications que nous avons sur la Genèse, le premier livre de la Bible, et nous en sommes au chapitre 3. Et je vous invite à le trouver dans leur Bible, dans vos Bibles pour en avoir la lecture. Genèse. Au chapitre 3. Le serpent était le plus avisé de tous les animaux de la campagne que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme dit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas, Dieu le sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. » Et vous serez comme des dieux qui connaissent ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture et plaisant pour la vue, qu'il était cet arbre désirable pour le discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier pour se faire des pagnes. Alors, ils entendirent le Seigneur Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et la femme allèrent se cacher parmi les arbres du jardin pour ne pas être vus par le Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu appela l'homme, il lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'étais entendu dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu, je me suis donc caché. » Il reprit, « Qui t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « C'est la femme. » que tu as mise auprès de moi, qui me a donné de l'arbre, et j'ai mangé. » Alors le Seigneur dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « C'est le serpent qui m'a trompé, et j'ai mangé. » Le Seigneur dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes et tous les animaux de la campagne. Tu te déplaceras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » À la femme, il dit, « Je multiplierai la peine de tes grossesses. C'est dans la peine que tu mettras des fils au monde. » Ton désir se portera vers ton mari, mais lui, il te dominera. » À l'homme, il dit, « Puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé de l'arbre que je t'avais défendu de manger, la terre sera maudite à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Elle fera pousser pour toi des épines et des chardons et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre puisque c'est d'elle que tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » L'homme appela sa femme du nom d'Ève, vivante, car elle est devenue la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des habits de peau, dont il les revêtit. Le Seigneur Dieu dit, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, que maintenant il ne tende pas la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre toujours. Le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Après avoir chassé l'homme, il posta à l'est du jardin d'Éden les kéroubim à l'épée flamboyante qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de vie. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur pour ta parole. Parle-nous à travers elle. Et je te prie que je ne déforme pas ton message. Amen. Des fois, on se pose la question, quand on lit un texte, de quoi parle-t-il ? Là, on ne se pose pas la question. Ce texte parle de péché. Le péché, c'est pas très sexy. Dans une société déculpabilisante, ça fait doucement rigoler. Je suis libre de faire ce que je veux, faire ce que je veux tant que je ne fais pas de mal aux autres, et compter sur moi pour expliquer pourquoi ce que je fais ne fait pas de mal aux autres. Ou pourquoi ce que je fais fait plus de bien, en tout cas à moi, qu'il ne fait de mal aux autres. Alors dans ce contexte, parler de péché, porter une conclusion claire qui dit « c'est mal », c'est pas à la mode. Mais ça fait partie de la révélation biblique, ça fait partie de la vérité, de ce que nous enseigne la Bible, de ce que nous enseigne notre Dieu. Ce texte, plus je le lis, plus je l'étudie, plus j'y découvre des choses nouvelles. J'ai eu le privilège de l'étudier en cours, j'ai écouté des prédications, nous l'avons travaillé en études bibliques, et il y a 2 semaines, on est rentré dans les détails du texte. À chaque fois, je découvre des nouvelles choses. C'est beau comme il est construit, comme un détail va répondre à un autre détail. Et on apprend aussi bien dans les détails en profondeur qu'en ayant une vue plus large. Ce texte raconte ce qu'on appelle la chute, c'est-à-dire la première fois où l'homme a péché. On y voit le serpent qui tente la femme pour la faire désobéir. Elle et l'homme. Et il y parvient puisque l'un et l'autre mangent du fruit défendu. Alors, derrière le serpent, on reconnaît le diable. Il n'est pas nommé dans ce récit, mais il est nommé ailleurs dans la Bible. Une précision sur le diable. Parenthèse, il est important de se souvenir que le diable n'est pas un anti-dieu, un dieu du mal opposé au dieu bon. Nous croyons qu'il y a un seul dieu qui a créé toutes choses, que le diable est une créature, un ange qui s'est rebellé. Si vous voyez comme le diable procède, on voit dans ce récit qu'il met en doute Dieu. Il le représente non pas comme le créateur aimant, mais comme quelqu'un qui limite les possibilités de l'homme, les possibilités de jouir du jardin, du lieu où il est, de profiter de la vie. Il dresse un portrait faux, une mauvaise conception de Dieu. Et dans ce récit, la femme, puis l'homme, tombent dans le panneau. On voit à la fin du récit Dieu qui, en conséquence de leur désobéissance, les chasse du jardin. Il quitte le jardin d'Éden, ce lieu bienfaisant, sans espoir d'y revenir, puisque des kéroubim, des chérubins, selon certaines traductions, gardent l'accès. Lorsque nous avons étudié ce texte en étude biblique, nous avons vu qu'il contient des éléments symboliques. Ce n'est pas un texte purement poétique. Il parle de choses réelles. Mais ce n'est pas non plus un récit où les détails rapportés sont tous figuratifs et cherchent tous à nous faire revivre la scène. Il y a une part de symbolique. Henri Blocher dit de ce texte que c'est la combinaison d'un fond historique et d'un revêtement parabolique ou symbolique. Ce matin, plutôt que d'entrer dans les détails, ce qu'on a fait lors de l'étude biblique, j'aimerais prendre un peu de hauteur et regarder la structure du texte, le texte dans sa globalité. La structure du chapitre 3 que nous avons lu, on voit d'abord un dialogue entre le serpent et la femme au sujet de l'arbre de la connaissance. Ensuite, le péché qui est là, deux versets, l'exécution de la désobéissance. Puis, un dialogue entre Dieu et l'homme et la femme au sujet de l'arbre de la connaissance. Ensuite, on a Dieu qui prononce des sentences contre les protagonistes, contre le serpent, la femme, l'homme. La malédiction du serpent. Pour l'homme et la femme, les fonctions vitales qui sont affectées, les grossesses de la femme qui sont plus douloureuses, le travail difficile de l'homme. Et puis aussi, l'altération des rapports entre les êtres. L'hostilité entre le serpent et la femme, mais aussi la femme qui devient nommée par l'homme, dominée par l'homme, alors que son désir se porte vers lui. Donc, des relations qui sont changées, qui sont altérées. Et puis finalement, à la fin du récit, on voit les humains expulsés du jardin. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il y a quelques semaines, nous avons étudié le chapitre 2. Je vous avais dit qu'il faut voir les deux chapitres ensemble. Et on le voit quand on regarde la structure. En fait, la structure forme, des deux chapitres forment une unité. Il y a une symétrie qu'on voit apparaître. Tout s'organise autour de cet événement central qu'est le péché. On part d'une situation initiale où l'homme est placé dans le jardin et on finit avec une situation finale où les humains sont expulsés du jardin. On nous expose les rapports entre les êtres, les animaux qui sont dominés, nommés par l'homme, mais la femme qui est une aide, un vis-à-vis, un complément. Mais après la chute, il y a altération des rapports. Alors que la femme désire se tourner vers son mari, elle reçoit en réponse la domination. Et ensuite, qui encadre le péché, on a ces deux dialogues entre le serpent et la femme, puis entre Dieu et l'homme et la femme au sujet de l'arbre de la connaissance. Vraiment, ce texte est organisé de façon symétrique dans sa structure autour du péché. Et le but de ce texte, ce qu'il veut nous enseigner, c'est qu'il y a un grand renversement, un grand bouleversement qui s'est passé dans notre monde. Il y a un avant et un après. Avant, l'homme et la femme sont dans le jardin. Ce monde que Dieu a créé, ce monde dont Genèse 1 nous dit que Dieu l'estime bon, ce monde qui était bon. Dans le jardin, l'homme a un accès direct à Dieu. On avait parlé, en regardant le chapitre 2, de cette image du temple. Le verset 8 que nous avons lu, le verset 8 du chapitre 3, nous montre Dieu qui se promène dans le jardin. Il est là. Quand on est dans le jardin, au détour d'un virage, on peut croiser Dieu et parler avec lui directement. La plénitude de la présence de Dieu. Et tout laisse penser, quand on lit ce verset 8, que c'est habituel. C'était dans les habitudes de Dieu de se promener là. Et dans ce cadre, dans le cadre du jardin, dans le cadre de la présence de Dieu, eh bien, l'homme a accès à l'arbre de vie. On ne nous donne pas le mode d'emploi de l'arbre de vie, on ne sait pas ce qui se passe, mais on comprend dans ce qu'on lit dans le chapitre 3, quand Dieu l'écarte de cet arbre, que c'est un arbre qui maintient en vie. L'homme n'est pas forcément immortel, mais lorsqu'il est en relation avec Dieu, il a la possibilité de vivre éternellement avec lui, de bénéficier de ce fruit de vie que Dieu veut pour lui. Et dans ce cadre, les relations sont harmonieuses. Les relations entre l'homme et la femme, pas de domination, mais une aide, un vis-à-vis. Les relations entre l'homme et la terre. Genèse 2 décrit un homme au travail qui entretient le jardin. Et rien ne nous dit que... Et ce travail, eh bien, il est agréable. Donc, on a une situation initiale, une situation voulue par Dieu, une situation issue de la création. Et après le péché, on a un renversement. L'homme et la femme finiront par être expulsés de ce jardin, expulsés de la présence pleine et entière de Dieu. Et quand on lit la Bible, et en particulier l'Ancien Testament, on se rend compte de ce que ça veut dire. De tous ces rites qu'il y a à avoir pour se purifier, pour avoir accès un petit peu à Dieu. Lorsque le temple est mis en place, il y a le lieu saint et puis le lieu très saint, où seul le grand prêtre, tiré au sort, une fois par an, peut être dans la présence de Dieu. On mesure ce qui a été perdu. Et après la chute, après le péché, l'homme se cache. Il ne se cache pas parce qu'il était tout nu et qu'il avait honte de sa nudité. Il se cache parce qu'il a peur. C'est ce qu'il dit à Dieu. J'avais peur. Il ne se sent plus en sécurité face à Dieu. De même, les relations sont altérées, les relations se sont déréglées. L'homme et la femme n'arrivent plus à se trouver. Quand la femme va vers l'homme avec amour, c'est la domination qu'elle rencontre en réponse. Et il est important de préciser. Cette domination n'est pas un mandat de Dieu. Dieu ne demande pas à l'homme de dominer la femme. Non, cette domination, c'est la conséquence du péché qui déforme ce qui était prévu. Et le travail de l'homme également devient difficile, un sujet de souffrance. Difficile, pénible de travailler. Et cette situation, on est dedans aujourd'hui. Le texte nous dit, après l'expulsion du jardin, le jardin est gardé. Ni l'homme ni ses descendants ne pourront y revenir. Et ce monde déréglé, nous le reconnaissons. C'est le nôtre. Avec sa peine au travail, avec ses relations difficiles, la domination de l'homme sur la femme, révoltante parfois. C'est là l'enseignement de ce texte. Le monde n'était pas fait pour être comme ça. Dieu ne l'a pas voulu comme ça. Mais un jour, un événement, le péché, l'a changé. On entend parfois la question « Si Dieu existe, alors pourquoi le mal dans le monde ?» Ce texte en apporte l'explication. Le monde était bon, agréable. L'homme a choisi le péché et le monde ne tourne plus rond. Je disais tout à l'heure qu'il y a dans ce texte des événements, des éléments symboliques. On peut passer beaucoup de temps sur ce texte à savoir, et ceci, qu'est-ce que c'est ça, de quoi ça parle? Moi, j'aime beaucoup cette citation que j'ai trouvée dans Henri Blocher et que je partage. Face à ce texte, il ne s'agit pas de savoir si nous avons un récit historique de la chute, mais plutôt si nous avons un récit d'une chute historique. La question n'est pas de savoir si ce qui est représenté, c'est ce dont un journaliste fait un compte-rendu. Ce qui est important de savoir, c'est qu'un jour, cette chute s'est passée et c'est un événement dans l'histoire et nous subissons les conséquences aujourd'hui. C'est ce que montre notre texte. Ceci étant dit, j'aimerais aborder quatre questions avec vous. Il y a quatre questions qui retiennent mon attention. Tout d'abord, deux questions concernant la chute, puis deux questions pour aujourd'hui. Concernant la chute, d'abord, et la première question, c'est ce péché était-il si grave ? Était-il si grave de goûter juste un fruit ? Est-ce que ça valait la peine de balayer tout ça ? De faire autant d'histoires pour quelque chose d'aussi petit ? Dans le jardin, Dieu a défini un espace de liberté où l'homme pouvait évoluer avec une limite. Un arbre auquel il ne faut pas toucher. Et les psychologues le diront, sans limite, il n'y a pas de liberté. Cette limite protège l'homme. Dieu a clairement dit que consommer de cet arbre entraînerait sa mort. En passant outre cette limite, l'homme revendique le droit de tout consommer. L'homme veut toute la création pour lui. Pas de limite, ni maître, ni Dieu. Et pas de Dieu, c'est justement ce que choisit l'homme. C'est ce que le serpent met en avant. Vous serez comme des dieux. C'est ce que veut l'homme, se passer de Dieu. Se couper de lui, être comme lui. Plus que manger un fruit, c'est Dieu qui est rejeté par l'homme, d'où la gravité. Deuxième question, est-ce juste ? Est-il juste que nous en subissions les conséquences ? Après tout, j'ai rien fait, moi. J'y étais pas. C'est Adam. Les chrétiens acceptent que ce soit juste. Ils l'acceptent parce que Dieu le dit. C'est Dieu qui dit, c'est Dieu qui fixe les règles du jeu. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Par un seul homme, tous sont contaminés. Adam, c'est un chef de clan, un chef d'alliance, une tête d'alliance. Il agit non seulement en son nom propre, mais au nom de tous, de toute l'humanité, puisque c'est lui que Dieu a choisi pour être son représentant. Il agit au nom de tous, et quand il pêche aussi au nom de tous. Parce que nous sommes dans cette alliance établie avec Adam. C'est dur à envisager dans notre société où la liberté individuelle est aussi développée, où chacun est responsable pour ses actes. On a du mal à concevoir qu'on puisse porter les conséquences des actes de quelqu'un d'autre. Mais je suis français. Si François Hollande déclenche une guerre, déclare la guerre à un pays, par exemple l'Espagne, moi, français, je suis en guerre. Je ne peux pas aller en Espagne, passer mes vacances, me balader dans le pays ennemi comme ça, sous prétexte que c'est François Hollande qui a déclaré la guerre, pas moi. Je risque fortement quand même de me faire attraper, accusé d'espionnage ou que sais-je. Et j'aurais beau dire, c'est pas moi, je ne suis pas sûr que ce soit un bon mouvement de défense. Adam est notre chef d'alliance. Et dans ce cadre, nous supportons la conséquence du péché de notre chef de clan, celui qui avait contracté l'alliance avec Dieu. Vous pouvez relire Romains 5 qui parle énormément de ce sujet. Verset 15, la faute d'un seul a eu pour conséquence la mort de beaucoup. Verset 18, une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes. Verset 19, par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs devant Dieu. Mais en même temps, je crois qu'on serait mal placé pour faire les malins, pour dire « Ah, moi, j'ai rien fait, c'est Adam ». Ça sonne un peu, je ne sais pas si vous remarquez, ça sonne un peu comme dans le récit, quand Dieu vient trouver Adam et qui lui dit « C'est pas moi, c'est la femme ». Dans mon expérience, je pense à bien des fois où j'ai eu le choix, où je l'ai vu clairement devant moi, ce choix de faire ce qui était bon ou mauvais. Des fois où j'ai eu des élans de colère haineuse, des fois où je jette de l'huile sur le feu au lieu de rechercher la paix, des fois où je vis l'incivisme de manière inconséquente. Et je le vois, je l'entends. Tu ne devrais pas faire ça. Et il y a une hésitation. Et je le fais quand même. Ce mauvais choix d'Adam, celui de vouloir nous affranchir de Dieu, celui de vouloir nous passer de sa loi, être notre propre maître, nous avons eu tous l'occasion de le faire. Qui ne l'a pas fait ? Je suis tombé sur un dépliant d'évangélisation que j'ai retrouvé, où on posait cette question. Seriez-vous prêt à ce que tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez pensé soit publié, connu de tous ? Moi pas. Même sans me cacher derrière Adam, je sais pertinemment que par ma propre faute, par mon choix de vivre l'indépendance et non la fidélité à Dieu, je me suis condamné. Adam a péché en tant que chef d'alliance, je suis là-dessous, mais j'ai ratifié son péché pour moi-même aussi. Deux questions sur la chute. Je parlais également de deux questions pour aujourd'hui. Et la première question, je ne sais pas si elle va vous surprendre, c'est pourquoi les choses ne vont-elles pas plus mal que ça ? Bizarrement, si l'homme a choisi de vivre sans Dieu et qu'il en subit les conséquences, en particulier que les relations se sont dégradées, alors la question, la vraie question, c'est pas si Dieu existe, pourquoi y a-t-il le mal dans le monde ? C'est plutôt quand on voit ce qu'on voit, pourquoi y a-t-il du bien dans le monde ? Pourquoi le monde ne va-t-il pas plus mal ? Et clairement, nous avons en effet là de la grâce de Dieu. Dieu ne permet pas que le mal se déploie avec toute sa force. Il restreint et limite son progrès. Béni soit notre Dieu. Il accorde à tous les hommes, croyants ou non, ses bienfaits, tels que le soleil ou la pluie, les fruits en leur saison, les autorités qui nous dirigent et maintiennent de l'ordre, et même le souffle de la vie qui nous donne et qui nous maintient en vie. Et ça, tous en bénéficient, qu'ils soient croyants ou non. Les théologiens appellent cela la grâce générale ou la grâce commune. La Bible témoigne de ce que Dieu prend soin de ses créatures. Il y a 2 semaines, je prêchais sur Jonas et on y voyait Dieu qui explique à Jonas qu'il a pitié des hommes, qu'il a créés et qu'il aime. Et dans notre récit même, juste après leur désobéissance, Dieu s'occupe encore de l'homme et la femme. Il les habille avec des habits de peau et j'y vois un acte d'amour. Dans le psaume 45, il est écrit « L'Éternel est bon envers tous les hommes et plein de tendresse pour toutes les créatures. » Merci Seigneur. Deuxième question. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce qu'on peut se sortir de ce traquenard, de ce monde corrompu, de cette situation terrible? Et le chapitre que nous avons lu répond oui. Il contient cette promesse. Le verset 15. La descendance de la femme, est-il dit au serpent, t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. En cette période d'avant où nous nous préparons à Noël, à la venue de Jésus, il est bon de remarquer que dès la chute, Jésus est annoncé. Il est annoncé de façon floue, mais il est là, il est présent, dès le début. Genèse 3, verset 15. Et nous savons qu'il s'agit de Jésus, qui va remporter la victoire sur le diable, qui nous permet d'entrer dans une nouvelle alliance. Jésus remporte la victoire sur le diable. L'Apocalypse nous le dit d'une façon directe. On retrouve Apocalypse 12, Apocalypse 20, on retrouve le serpent ancien. Pas n'importe quel serpent, le serpent ancien, celui qu'on a vu dans les premiers temps, en Genèse 3. Et on assiste à sa défaite. Mais de façon plus frappante encore pour nous, qui avons Genèse 3 en tête, on se souviendra de la tentation de Jésus, juste après son baptême, quand il va au désert. Lors de cet épisode, le diable va utiliser la même tactique qu'avec la femme. Il va prendre des paroles de Dieu et il va les remettre en question. Quand il invite Jésus à se nourrir par lui-même, quand il propose de se jeter du temps pour mettre Dieu à l'épreuve, quand il propose de bénéficier des royaumes de la terre sans passer par son sacrifice, il l'invite à passer outre les limites de Dieu, à s'affranchir de lui. Mais Jésus ne craque pas. Là où Adam a échoué, il va jusqu'au bout de ce qui était prévu par Dieu, jusqu'au sacrifice sur la croix. Et j'ai la faiblesse de croire que c'était plus difficile que d'entretenir le jardin d'Éden. Mais mieux encore, nous avons peut-être un élan de révolte de savoir que nous subissons négativement les conséquences du péché d'Adam, la malédiction et la mort. De savoir qu'en tant que membre de l'alliance dont il est le chef, nous subissons cela. Mais de la même façon, nous pouvons entrer dans l'alliance ouverte par Jésus et bénéficier positivement des bienfaits de cette alliance, de la bénédiction et de la vie éternelle. Nous avons été déclarés justes en raison de notre foi. Nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Et je trouve cela fantastique. Alors que nous étions tentés de dire, c'est pas juste. Si Adam a péché, c'est pas moi qui mérite la mort. Dieu nous répond, dis-moi si c'est juste. Toi, tu as péché. Mais par Jésus, je t'offre la vie. Peux-tu entrer dans son alliance ? Je ne sais pas si vous vous souvenez des versets de Romains 5 que j'ai lus, mais on peut les reprendre. Romains 5, versets 15 à 19. Il y a une différence entre la faute d'Adam et le don gratuit de Dieu. En effet, si la faute d'un seul a eu pour conséquence la mort de beaucoup, à bien plus forte raison, la grâce de Dieu accordée gratuitement par un seul homme, Jésus-Christ, a surabondé pour beaucoup. Quelle différence aussi entre les conséquences du péché d'un seul et le don de Dieu. En effet, le jugement intervenant à cause d'un seul homme a entraîné la condamnation. Mais le don de grâce intervenant à la suite de nombreuses fautes a conduit à l'acquittement. Car si, par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent les trésors surabondants de la grâce et le don de la justification régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte, satisfait à la justice, a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur donne la vie. Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs devant Dieu, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont déclarés justes devant Dieu. Oui, oui, on peut s'en sortir. À travers Jésus, Dieu nous tend la main. À chacun de nous de voir si nous voulons la saisir et vivre la vie qu'il propose, cette vie de plénitude, de réconciliation avec Dieu, cette vie que la Bible appelle la vie en abondance. Et c'est cette vie que nous voulons vivre et promouvoir en Église. Au moment de conclure, ce texte nous aura fait voyager. Ce texte, Genèse 3, Genèse 2 et 3, à prendre ensemble, nous apporte l'explication biblique à cette question qui préoccupe tant nos contemporains. Pourquoi le mal dans le monde ? Et sa réponse est sans appel. Il y a le mal dans le monde parce que l'homme a choisi de tourner le dos à Dieu, de vivre indépendamment, en un seul mot, parce que le péché. Nous tous qui vivons dans ce monde, nous en subissons les conséquences. Nous tous qui vivons dans ce monde, nous sommes condamnés. Nous étions condamnés. Parce que le texte annonce aussi la solution prévue par Dieu. Un homme qui triomphera là où Adam a échoué. Et qui viendra ouvrir une nouvelle alliance. Cette alliance, il l'ouvre à ceux qui croient en lui. Toute la Bible en parle. Toute la Bible continue une histoire. L'Ancien Testament annonce cette venue. Le Nouveau Testament l'expose. Tout est là pour nous donner le choix. Suivre Adam ou suivre Jésus. C'est la question avec laquelle je vous laisse.